Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dimaoni.
Chenne Berry.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
L'enrôlement pour l'obtention de la carte biométrique n'a pas encore commencé dans toutes les localités du pays. Pourtant, il est censé prendre fin le 31 mars prochain. Dans la zone où le processus est en cours, certaines autorités déplorent une faible mobilisation. Les populations regrettent quant à elles les tracasseries. On en parle dans ce numéro de Grand Dialogue avec quatre invités. Au téléphone avec nous, Salia Traoré de la Coalition pour l'Observatoire citoyen des élections au Mali, COSEM. Ismaïla Yorodiko, membre du Bureau national du Conseil national de la société civile. Depuis Badiangara avec nous également, Aboubakar Karambé, secrétaire général du Bureau communal de la jeunesse de Badiangara. Modi Sidibé, mouvement des jeunes patriotes du Mali. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
La première question sera pour Ismaïla Yorodiko. C'est quoi la carte biométrique ?
Bon, la carte biométrique, c'est un peu le nom qui change. D'habitude, tout citoyen malien devait avoir un acte d'état civil, notamment la carte d'identité. Bon, en termes de sécurité, la carte d'identité n'était pas aussi garantie que ça. On parle de biométrique parce qu'il y a le système informatique et de garantie informatique. Là, ça veut dire que l'État a beaucoup réfléchi et a mis à contribution les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est une carte qu'on ne peut pas falsifier parce qu'elle est établie à partir de la carte de l'information que tu as cité, ta carte NINA. Voilà. Donc, dans l'histoire, comme peut-être vous le savez, vous êtes un peu plus jeune, mais on peut le rappeler, de tout temps, c'était la carte d'identité. Mais dans ce pays, à un moment donné, les autorités avaient engagé la réflexion au constat que de plus en plus, beaucoup d'étrangers, entre guillemets, possèdent la carte d'identité malienne. Et on le dit même, la chose la plus facile, c'est d'avoir la carte d'identité malienne. C'est ça. Vous allez voir des noms de Sud-Africains, des Zaïrois, des Congolais, et puis des Gambiens, qui se disent maliens parce qu'ils ont la carte d'identité. Donc, il y a des pratiques frauduleuses qui se passent au niveau de certains de nos consulats en son temps, quoi. Donc, pour ça, l'État, cette fois-ci, a mis le gros moyen pour dire ça va être informatique. Ta carte NINA, elle est éternelle jusqu'à la mort. C'est la seule carte, ça ne peut pas changer. Et donc, la carte-là qu'on va vous donner, c'est une carte biométrique. C'est-à-dire qu'on va prendre tes empreintes. Il y a un système informatique très développé. Et franchement, tu peux dire, voilà ma carte, je suis vraiment aujourd'hui un vrai, vrai Malien. Voilà. Donc, l'État s'est investi et il a mis les moyens pour ça.
Salia Traoré de la COSEM, vous participez à cette émission par téléphone. Est-ce que vous convenez qu'également cette carte biométrique, c'est pour avoir un fichier d'identité plus sûr et plus fiable?
Bonjour tout le monde. Merci. Effectivement, comme il a si bien dit, donc c'est un document officiel qui certifie l'identité de son titulaire, effectivement sur la base de son numéro personnel d'identification. Au Mali, comme vous le savez, depuis il y a l'encensement, l'enrôlement qui s'effectue.
Salia, le téléphone est en train d'osciller un tout petit peu. Approchez le téléphone de vous, s'il vous plaît. C'est en train d'osciller.
D'accord, c'est bon maintenant?
Oui, c'est bon, allez-y.
D'accord. Voilà, je disais effectivement que ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est un document officiel et qui certifie l'identité de son titulaire. Et c'est effectué également sur la base de son numéro personnel d'identification. Comme vous le savez, depuis 2009, nous avons le numéro d'identification national appelé NINA à travers l'enrôlement qui a été effectué. Donc, c'est une carte nationale d'identité. Et également, elle est multifonctionnelle parce qu'elle peut servir de carte d'électeur, elle peut servir d'identité, elle peut même être également servie comme permis de conduire.
Alors, votre organisation a des démembrements un peu partout dans le pays. Pouvez-vous nous dire comment l'enrôlement est organisé pour l'obtention de la carte biométrique?
Effectivement, la COSEM est présente sur l'ensemble du territoire. Selon nos premiers constats sur le terrain, nous voyons que ce n'est pas opérationnel comme le gouvernement l'a si bien dit. Maintenant, ça commence à être opérationnel dans des localités, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont déjà confrontés à d'énormes défis. Parce que ce n'est pas décentralisé comme ça avait été effectué en 2009. où les agents sont décentralisés pour être plus proches des citoyens. Alors, on conviendra avec moi.
Salia Traoré, nous allons devoir vous couper un tout petit peu parce que le son n'est pas tellement audible. Essayez de régler ça, le temps de faire un tour de table et revenir vers vous. On va faire réagir Modi Sidibé du mouvement des jeunes patriotes. Modi Sidibé, comment cet enrôlement est organisé aujourd'hui?
Bien évidemment, cet enrôlement est organisé par l'État au niveau des commissariats de police, que ce soit à l'intérieur, à Bamako ou à l'intérieur du pays. Mais ce qui est à déplorer, c'est qu'il n'y a pas des équipes sur le terrain comme avec les cartes NINA et autres, ce qui fait que les gens ont des difficultés pour avoir accès à cela. Il y a aussi la décentralisation qui pose problème. Comme je viens de le dire à l'entame de mes propos, autrefois, il y a la mairie et d'autres structures, des équipes sur le terrain pour faciliter tout ça. Maintenant, il faut reconnaître aussi qu'il n'y a pas grand-chose à faire sauf une bonne organisation parce que tout simplement la carte biométrique est une version améliorée de la carte NINA et tout. Voilà.
Et pour comment les personnes font la queue pour l'enrôlement? En fait, les centres, est-ce qu'il y a du monde? Parce qu'à un moment donné, les autorités disaient que les gens ne sortent pas assez pour aller s'enrôler.
Effectivement, il y a du monde. Par exemple, quand vous faites un tour au niveau du commissariat du 5e arrondissement à Lafayette-Bougou, il y a de l'afflux là-bas. Mais du fait que les gens ont des difficultés à y avoir accès, c'est ce qui commence à décourager les gens. Je pense que le gouvernement doit aussi fournir plus d'efforts pour permettre à tous ceux-là qui font le déplacement d'avoir accès à cette carte-là facilement pour que l'afflux puisse être quand même acceptable. La finance plutôt.
Merci beaucoup. Salia, j'espère que la ligne est établie avec vous. Vous nous entendez?
Je vous entends très bien.
Alors, Salia Traoré vient de dire qu'à Bamako et à l'affluence, est-ce exactement le cas partout dans le pays?
L'affluence à Bamako, selon les premières informations qui nous est parvenues par notre démembrement, comme je le disais dans mes propos, cette opération n'avait pas débuté sur l'ensemble du territoire. Je prends l'exemple, par exemple, de Tomoku. L'opération a débuté, je pense bien, avant-hier ou bien lundi. Donc, c'est pour vous dire que ce n'était pas encore opérationnel sur l'ensemble du territoire. Comme on l'avait annoncé, au fait, les dispositions étaient en train d'être prises, selon nos observations, pour que l'opération puisse toucher le maximum de personnes. Alors, nous pensons que nous sommes à un moment décisif, donc il est vraiment important que l'État puisse vraiment déconcentrer et décentraliser les opérations au niveau des mairies d'État secondaire ou bien, pourquoi pas, même mettre en place des équipes mobiles. Parce que vous savez que c'est cette carte qui permettra aux citoyens, qui fera office de carte d'électeur, fera office de carte d'électeur. Nous sommes dans un moment charnier, donc il est extrêmement important que le maximum de personnes puissent obtenir sa carte d'électeur, sa carte d'identité nationale qui doit servir de carte d'électeur également pour les futures échéances électorales à venir. Donc jusqu'à présent, donc, il y a d'énormes défis qui trouvent être là pour les citoyens. Donc vous partez dans certaines localités, vous verrez que les agents ne prennent que 20 personnes alors que les citoyens sont là à l'arrêt et ils laissent tout pour pouvoir s'enrôler. Donc c'est extrêmement important. Il faut que le gouvernement puisse mettre le bouchon double pour pouvoir décentraliser encore une fois, comme on l'a dit, donc les opérations au niveau de façon vraiment sanitaire.
Merci beaucoup Salia Traoré. Vous gardez la ligne pour le reste de cette émission. Le temps pour nous de se rendre à Badiangara pour trouver Aboubakar Karambé. Aboubakar, bonsoir.
Bonsoir, vous allez bien, madame Maïga?
Merci beaucoup. Vous êtes à l'émission qui parle de l'obtention de l'enrôlement pour la carte biométrique. Comment le processus est organisé à Badiangara?
Bon, effectivement, comme les prédécesseurs ont dit, vous savez que le système d'enrôlement qui a démarré à Badiangara hier, sous la haute présidence du gouverneur de la région de Badiangara, Sidi Mohamed El Béchir. Donc, ici, le constat en est que, en tout cas, il n'y a pas tellement assez d'affluence, parce que dès le départ, les gens n'avaient pas compris, la communication n'était pas à la hauteur, ce qui a fait que beaucoup de gens viennent sur les sites pensant qu'on est en train de donner des nouvelles cartes NINA. ou d'autres pièces d'identité en vue d'être identifié comme un Malien. Maintenant, le fait en est que, en tout cas, ce qui se passe ici, compte même en fonction du petit nombre, le déroulement s'est fait correctement. Enfin, je veux dire, l'identification s'est fait correctement. Parce que ce matin même, je suis passé au niveau du commissariat et à la gendarmerie. J'ai trouvé quand même qu'il y avait, malgré peu de monde, mais ça se passe très bien. Mais j'ai constaté quand même qu'il y a, tellement de difficultés techniques. Parce que on a constaté quand même qu'il y a des identifiants qui ont leur nom et le numéro est conforme, mais la machine ne reconnaît pas ces identifiants. Donc ça, c'est des difficultés techniques. Et ce que les agents qui sont chargés de faire le travail sont confrontés. Ils sont vraiment confrontés à ces difficultés parce qu'ils ont constaté donc que même il y a des gens qui ont les pièces, et ils ont trouvé que le récépissé d'enrôlement est plus valable que la carte MINA délivrée. Vous voyez, donc le numéro de carte MINA inséré dans la machine est résisté immédiatement, mais au contraire, celui du récépissé est reconnu par la machine. Et même il y a des cas où on a constaté que les intéressés sont identifiés, et les données sont conformes, mais les machines rejettent. Donc ça, c'est vraiment des difficultés techniques énormes qui sont sur le terrain, qui font que tous ceux qui viennent se répartent comme ça, et ne comprennent pas un peu le système parce qu'il n'y avait pas eu assez de communication. Parce que même dès le départ, les activités étaient beaucoup plus concentrées au niveau de Bamako à l'intérieur du pays. Donc c'est ce qui a fait que ces difficultés sont là et que les gens qui viennent ont de la peine à vraiment être satisfaits.
Alors, Monsieur Karambe, il y a Maurice Sidibé, un de vos co-débatteurs, qui disait qu'ici, à Bamako, c'est fait dans les commissariats. Et également, j'ajouterais que dans certains camps de gendarmerie également, le processus se fait. À Badjangara, sur place, qui est en train de procéder à ces enrôlements-là?
Effectivement, c'est les deux sites également. C'est le commissariat de police de Badjangara qui va couvrir les 21 communes du cercle de Badjangara. Alors, 21 communes du cercle de Badjangara, vous imaginez, ça fait à peu près une population de plus de 40 000 habitants. Donc, s'il faut identifier ces 40 000 personnes par un seul commissariat, ça, c'est une énorme difficulté. Il y a le commissariat de police et aussi la gendarmerie. Donc, c'est les deux sites qui sont réservés, en tout cas pour l'enrôlement ou la correction de cette pièce-là au niveau du cercle de Badjangara.
Merci beaucoup à Aboubakar Karambe. Vous gardez la ligne pour le reste de cette émission. Dans vos propos, je vois M. Diko sursauter en disant que c'est trois sites.
Oui, comme c'est un dogon, je peux le pardonner. En fait, pour la carte d'identité, c'est la gendarmerie, la police et chez le sous-préfet. C'est les trois entités habilitées à faire ce travail-là. C'est très, très important. La carte biométrique. Il faut que les gens retiennent cela. Madame Meiga, c'est important aussi que je fasse quelques précisions pour que les gens comprennent.
Allez-y.
Et c'est des précisions juridiques. La carte, la durée de validité, c'est 5 ans. Ton enfant qui a 5 ans est autorisé à avoir cette carte biométrique. À 15 ans...
Excusez-moi, oui. La durée de... C'est-à-dire si j'ai ma carte biométrique...
Aujourd'hui, donc l'État te le donne gratuitement pendant 5 ans. Tu ne payes rien. La cinquième année, pour ta deuxième carte, tu dois payer.
Tu dois payer combien?
Bon, ça, il y aura un arrêté du ministre de la Sécurité avec le ministère des Finances. Ils vont fixer ça par arrêté. C'est prévu dans la loi, dans le décret, quoi. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à 15 ans, tout citoyen malien qu'on rencontre à Bamako ou dans les quartiers, ou bien à Koro ou bien en Badjangara, sans carte d'identité, le code pénal te sanctionne. Tu peux faire la prison ou bien en tout cas être victime. La justice peut te condamner. le fait de ne pas avoir une carte d'identité à l'âge de 15 ans. 15 ans et plus, jusqu'à 150 ans. Donc, c'est des informations, c'est pour que les gens comprennent. Et Sidi Bé l'a dit, effectivement, je pense qu'au départ, il y avait quelques incompréhensions. Les gens se disent, où est-ce que je dois aller? Quelles sont les pièces que je devais fournir? Ainsi de suite. Et l'arrêté est très clair. L'arrêté a déterminé les pièces qu'on doit fournir. D'abord, ta carte NINA. Deuxièmement, tu dois indiquer ton nom, prénom, le nom de ton père, la mère, le sexe, la date, le lieu de naissance du titulaire. Ensuite, le nom et en tout cas la personne intéressée, quoi. Il faut connaître toutes ces informations. L'adresse, un domicile, il faut que tu indiques un domicile. C'est très clair. Et c'est ça la difficulté qui va venir dans les zones nomades, où en fait, c'est des gens qui se déplacent de zone en zone. C'est pas aussi...
Justement, quelle explication vous donneriez à ceux que, jusqu'à présent, le processus n'a pas démarré dans plusieurs localités, notamment les localités du nord du pays?
En fait, ce que je vais vous dire ici, comme vous l'avez indiqué au départ, moi je suis le représentant du Conseil national de la société civile du Mali. Et nous, notre message, c'est de demander aux Maliens et aux Maliennes de se mobiliser et de mettre tout en œuvre vraiment pour que ces Maliens et ces Maliennes puissent avoir leur carte d'identité biométrique. On a mis à la fin sécurisé.
Je vais revenir vers vous. Je veux juste continuer avec cette parenthèse-là en donnant la parole à la COSEM, qui est une organisation avec des démembrements à l'intérieur du pays.
Comme le Conseil national de la société civile.
Effectivement. dans votre observation, Salia Traoré, est-ce que vous avez une explication au fait que le processus n'a toujours pas démarré partout dans le pays, notamment dans les localités du Nord?
Bon, ça, je ne saurais le dire parce que dans les communiqués qui ont été effectués par les plus hautes autorités, donc c'était censé commencer sur l'ensemble du territoire. Maintenant, effectivement, comme vous l'avez dit, donc nous avons fait des observations, c'est ce que je disais au début de mes propos. Donc à la lumière de ces observations sur le terrain, donc nous avons vu que ça n'avait pas commencé. Et je pense que pour Badianara, comme mon co-débatteur l'a dit également, donc ça a commencé hier, si j'ai bonne mémoire, comme il l'a si bien dit. Donc c'est un peu également la même chose qui se passe dans les autres localités. Donc nous ne savons pas pourquoi les opérations n'ont pas encore touché jusqu'à présent ces localités. Et comme ça avait été dit dans les communications qui ont été effectuées. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous avons également, comme je le disais, donc il reste également un réel défi pour pouvoir avoir ces pièces d'identité, parce que il nous reste encore un mois et quelques jours, alors que l'opération n'a pas encore commencé dans certaines localités. Donc je pense que c'est quelque chose de vraiment à revoir par les plus hautes autorités pour que l'ensemble des citoyens, ou la majorité, puisse être touchée. Je l'ai dit et je le répète encore, nous sommes dans un moment, dans un tournant déterminant où cette carte biométrique va servir également de carte d'électeur pour les citoyens. Alors nous sommes dans une année électorale, donc il est important que la majorité des citoyens puissent avoir ces cartes d'électeur pour pouvoir voter, cette carte d'identité biométrique pour pouvoir voter dans les jours à venir.
Salia Traoré, justement, on va écouter les citoyens qui se sont exprimés sur le processus de Yoroso en passant par Ségou jusqu'à Tombouctou, des réactions recueillies par Adama Amadou Haïdara avec le concours de nos correspondants.
Depuis hier, je suis venu trouver une liste d'attente ici. Je me suis enregistré, je n'ai pas eu qu'à présent. C'est très très compliqué même ici à Yoroso.
Je suis venu pour la carte biométrique. Je ne suis pas venu très tôt. Je vois qu'il y a assez de monde et c'est là.
Moi quand même, je n'ai pas eu de problème. Je suis venu seulement on m'a enregistré.
Je suis venu pour identifier mon carte NINA. Depuis hier, vers 16h, j'ai écrit mon nom. J'attends mon tour.
Il faut le travail par ordre d'arrivée. J'ai déjà fini et je rentre comme ça à la maison.
Je veux que ça soit rapide parce qu'il y a des gens qui viennent sans prendre de petit déjeuner.
Je suis arrivé très tôt le matin et ils n'ont commencé qu'à 10h. Il faut qu'il y ait du suivi dans le travail.
La Tombouctou, les rythmes sont un peu lents pour se faire enrouler.
Alors, vous venez d'écouter des réactions des auditeurs de Yoroso en passant par Ségou jusqu'à Tombouctou. Maudi Sidi Bé, quelles réactions faites-vous de ces avis donnés par les citoyens?
Malheureusement, c'est une triste réalité. Comme je le disais tantôt, il y a de l'affluence, que ce soit à Bamako ou dans certaines localités à l'intérieur du pays. Soit des problèmes techniques, soit les agents qui sont sur place ont du mal à dérouler à temps, en tout cas le processus, jusqu'à ce que maintenant les gens se découragent. Donc moi, j'en appelle en tout cas à l'implication de nos hautes autorités pour que ces manquements-là puissent y apporter des solutions et que des petits problèmes techniques aussi, qu'ils puissent aussi trouver des solutions à cela. Parce que le Malien, quand tu le fais appel, il est prêt à y aller. Mais quand il voit que sa présence n'a pratiquement pas d'impact et qu'il a des difficultés même à avoir le pourquoi il est là, et quand il se décourage, c'est une démobilisation en tout cas totale. Donc moi, je m'inscris en droite ligne avec les intervenants et je souhaite que des solutions rapides soient apportées.
Mais est-ce que, à l'allure où vont les choses, le processus peut prendre fin d'ici le 31, parce que c'est la date butoir?
Moi, je suis en train quand même de voir le projet comme une phase test pour les autorités. En réalité, c'est un processus qui concerne tous les Maliens à différents niveaux, à commencer par nos enfants de 5 ans à 15 ans, comme l'aîné a eu bien sûr à le dire. Donc, ils peuvent donner une date et pourquoi pas revoir cette date-là et trouver d'autres moyens pour que tout le monde puisse quand même s'enrôler. C'est important.
Pour Modi Cissé, c'est une phase test. Est-ce que, selon vous, il peut y avoir une prorogation parce que le 31 mars, c'est pour bientôt et dans certaines localités, ça n'a toujours pas débuté?
Oui, il peut y avoir une prorogation. Ça, c'est une volonté politique. C'est comme l'établissement des listes électorales dans le temps. Parfois, le gouvernement fait même chômer des jours pour permettre aux citoyens de se déplacer. Madame Maïga, le Conseil national de la société civile, c'est vraiment avoir des messages en direction de la population. Et ce message vient du Conseil national de la société civile, ça doit venir des partis politiques. Cette affaire, c'est aussi l'affaire des partis politiques. C'est important. Deuxièmement, c'est l'affaire de l'État qui est en train de faire ce qu'il peut. Mais ensuite, les autorités traditionnelles. Il faut qu'à tous les niveaux, on arrive à expliquer aux gens. Pour le démarrage, pour moi, les difficultés sont liées au fait que parfois, les gens n'ont pas suffisamment d'informations sur le processus. Et quand on arrive à expliquer aux gens, et n'oublions pas, on dit biométrique, c'est un système informatique, c'est une nouvelle technologie. Il y a des localités où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de courant, c'est des groupes, ainsi de suite, les machines chauffent, ainsi de suite. Donc pour le début, ça va être très très difficile. Mais l'engouement que j'ai constaté dans certains commissariats et gendarmeries à Bamako ici, je pense que nous devons nous en réjouir. Mais effectivement, comme les camarades l'ont dit dans les régions, il faut que le gouvernement soit très attentif par rapport à ça. Et le Conseil national de la société civile est prêt et nous nous engageons à envoyer des messages très forts en direction de toute la population, de nos membres dans les régions, dans les cercles, dans les communes, pour dire aux gens de se mobiliser. Parce que ce document, cette volonté politique, elle est révolutionnaire. Ici, tout le monde le sait, le taux de participation au Mali jamais n'a dépassé les 40%. D'ailleurs, les gens ne s'intéressent même pas. Même Bamako, qui est la capitale où il y a toutes les informations, toutes les sources d'informations, les gens ne vont pas voter. Ce document, cette pièce-là va te permettre aussi d'aller voter. Ensuite, ça peut être des permis. Donc, en fait, il y a des modifications. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement peut faire sur cette pièce-là pour que tu aies un document unique qui te permet de faire tout. Et donc, ton indépendance est là, ta citoyenneté est c'est multifonctionnel. Ta citoyenneté aussi est réaffirmée. Mais vraiment, c'est l'affaire des partis, c'est l'affaire de la société, mais aussi l'affaire de l'État qui est en train de s'investir, de se battre. Et je reviens pour terminer. Il faut qu'on explique encore aux populations qu'est-ce que ça signifie au fond et où est-ce qu'il faut aller. C'est connu, commissariat de police, gendarmerie et sous-préfet. Et dans le commissariat, ce sont les commissaires officiers de police judiciaire qui sont habilités à signer. C'est un peu plus moderne. Par contre, dans les arrondissements et les communes, c'est le sous-préfet qui doit le faire. Donc, c'est les trois niveaux où on peut se rendre et être enregistré.
Aboubakar Karambé, est-ce que l'objectif de cette nouvelle carte biométrique est compris au sein de la population de Badjangara?
Non, pas du tout, parce que moi, je suis d'accord avec les co-débatteurs quand ils disent que
Il faut renforcer la communication, expliquer un peu le contenu et le contenant de cette pièce, combien importante pour les citoyens lambda. Moi, je pense que, vous savez que les gens au Mali, on aime trop banaliser les choses en disant que ce n'est pas le test. Et en faisant les tests, ça nous conduit souvent vers l'échec. Donc moi, je ne souhaite pas cela. Et je voudrais, dès le départ, il faut que vraiment la communication soit renforcée. La communication soit renforcée tant au niveau de la capitale qu'à l'intérieur du pays. Et que, comme l'autre là, mon cousin l'a dit, vous savez qu'il y a dans plusieurs localités du Mali, même au niveau du pays de Gon, dans les zones les plus profondes, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des crises. Il y a certaines personnes qui ne parviendront même pas à faire le déplacement pour venir faire ces corrections. D'autres n'ont même pas cette pièce. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire que vraiment, les plus hautes autorités doivent toujours renforcer vraiment l'importance de cette pièce-là. C'est-à-dire que de donner de l'importance à cette pièce et mettre de la valeur ajoutée à cette activité-là. Sans quoi, compte tenu de l'importance de la pièce, vu que ça peut servir à beaucoup de choses aux citoyens, et compte tenu même de l'ampleur ou bien de l'importance de l'activité, je pense que toujours les plus hautes autorités, avec l'implication de tous les acteurs, la société civile, hein, des partis politiques et autres organisations, je pense que les gens doivent s'investir davantage pour que ce travail-là puisse réussir. Parce que aussi à Banyangara, comme je disais tantôt, tellement que la communication a échoué, les gens n'étaient même pas informés au départ. Il y avait des gens qui ne savent même pas ce qu'il veut dire un téléphone Android, à plus forte raison manipuler et apporter des corrections sur leur pièce. Donc, le système électronique aujourd'hui, c'est vrai que c'est important. On va révolutionner le monde technologique. Ça va nous conduire vers le développement. Mais il faut tenir compte aussi du pouvoir et de la capacité du monde rural. Aujourd'hui, le monde rural n'a pas ses moyens, n'a pas accès à la technologie. Donc, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc, ici, moi, je pense que toujours, en est-il qu'il faut que le monde rural soit davantage informé. Il faut que le monde rural soit informé davantage, qu'on les explique en langue locale qu'est-ce que ça veut dire, carte biométrique, à quoi ça va servir. Et c'est-à-dire que la personne n'a pas cette pièce, à quoi ça veut dire qu'il va s'attendre. Donc, ce sont des éléments très importants sur lesquels on doit communiquer davantage pour qu'on puisse réussir cette phase test. Je pense qu'au départ, si ce test est réussi, donc on est à 100%, je veux dire à 70% ou 60%, on est vers la réussite. Sans quoi, je vous avoue que ces tests-là, on risque de d'arrêter en.
Mais justement, M. Karambe, il y a un autre paramètre certainement que vous avez dit au maître, c'est l'insécurité également. Est-ce que ces enrôlements dans la région de Badjangara, ça se fait également dans les autres chefs-lieux de communes ou ça se fait simplement dans le cercle ou à Badjangara ville pour toute la région?
Badjangara, aujourd'hui, avec le nouveau découpage administratif, Badjangara compte 9 cercles. Dans les 9 cercles, uniquement 3 cercles sont concernés. Le cercle de Banyangara, le cercle de Bankas et le cercle de Koro. Maintenant, dans chaque cercle, il n'y a que 2 sites. Par exemple, au niveau du cercle de Banyangara, le commissariat de police et puis la gendarmerie va couvrir les 21 communes du cercle. Et là, aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui, le constat est que c'est seulement les habitants de la commune urbaine qui partent et les déplacés. Les déplacés qui sont au niveau de la commune urbaine. Donc, c'est eux seulement qui partent seulement pour la rectification de ces pièces-là. sans quoi les autres communes ne sont même pas informées d'abord, ils ne savent même pas ce qui se passe en réalité. Donc les gens qui ne viennent pas d'autres communes, c'est une fois la commune urbaine de Bayangara, et puis au niveau du cercle de Koro aussi, c'est uniquement le chef lieu de commune, le chef lieu de cercle, et Koro également la même chose. Donc vous voyez, donc le monde rural n'est pas tellement outillé de cette pièce-là, n'est pas informé davantage de l'importance et de comment on appelle de ce que ça va servir hein, à la personne.
Merci beaucoup, M. Karambé. Salut à Traoré. M. Karambé vient d'écorcher le mot. Il a parlé tantôt des déplacés. Avez-vous une idée du cas des réfugiés des déplacés pour l'enrôlement de ces cartes biométriques-là?
Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations à ce niveau. Comme vous le savez, la loi électorale même est en phase de modification. Donc, il y a la relecture qui est en cours, et notamment justement pour prendre en compte le cas des personnes déplacées pour qu'ils puissent voter également. Donc, vous conviendrez avec moi que si cette dynamique est déjà en marche par rapport au vote des personnes déplacées, donc il envoie des soins également que l'opération puisse toucher ces personnes. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas d'amples informations dans nos observations pour voir si l'opération touche ces personnes dans ces zones déplacées ou pas.
Et aujourd'hui, comment on peut sécuriser ce processus-là dans les zones à risque?
C'est une question qui reste en suspens. Et comment justement sécuriser, comment les populations en zone d'insécurité seront-elles dotées de cette carte biométrique? Parce que quelqu'un l'a dit ici sur le plateau, il faut savoir que c'est des documents et c'est sur la base biométrique, c'est de l'informatique. Donc il parle d'informatique, parle également des ressources énergétiques. Donc il y a ces aspects, il y a également l'aspect lié à la sécurité. Mais quand cela nous tient, nous avons espéré que les autorités puissent trouver des voies et moyens pour pouvoir toucher le maximum de personnes encore une fois, comme je l'ai dit. Et il faut que les uns et les autres comprennent également que c'est une phase test. Donc dans toute chose, le début est extrêmement difficile. Donc c'est pas uniquement cette opération n'est pas uniquement pour les élections à venir. Au fait, c'est la volonté affichée de nos États, de la CEDEAO depuis fort longtemps. Depuis 2014, si j'ai bonne mémoire, les autorités de la CEDEAO avaient pris cette décision et à Abuja pour mettre en place cette carte unique. Donc l'opérationnalisation de cette carte au niveau de l'espace CEDEAO permettra aux ressortissants de plus de 400 millions d'habitants de la CEDEAO d'avoir une pièce d'identité identique, dans un premier temps. Et ça pourra leur permettre également de circuler avec cette carte de façon libre et dans les 15 États. Et vous le savez que depuis un certain temps, on vient de parler de l'insécurité grandissante, donc ça gagne sur le terrain. Donc dans nos États, que ce soit au Mali, et que ce soit également dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, voire au Sahel. Donc le fait que nous allons mettre en place cette carte d'identité biométrique donc permettra de prendre certaines mesures pour protéger justement nos citoyens. Donc, il est impérieux, comme je le disais, pour que les uns et les autres puissent avoir cette carte biométrique. Donc, nous osons espérer que les autorités vont également tout faire pour que l'opérationnalisation puisse être effective sur l'ensemble du territoire, même si ça ne se termine pas, même si ça se termine pour le 31, moins qu'on puisse mettre en place des dispositions transitoires pour que ça puisse fonctionner et toucher le maximum de personnes. Mais ce que nous voulons, ce que nous exhortons, c'est que ça touche le maximum de personnes parce que, je le disais tantôt, nous sommes dans un moment crucial. Nous allons avoir des élections. Pour ce faire, cette carte va servir de carte d'électeur également. Il est important que les citoyens puissent avoir cette carte d'électeur pour pouvoir voter.
Et nous, on aurait bien voulu avoir un représentant du ministère de la Sécurité ou encore du ministère de l'Administration territoriale, mais nos différentes tentatives depuis hier ont été vaines. Maudit Sidibé, un exemple, je suis citoyen, je veux m'enrôler. Si je veux m'enrôler en vue d'avoir cette carte biométrique-là, je dois me lever quand et quels sont les citoyens du nom de Tracasserie et comment faire aujourd'hui pour l'avoir?
Madame, je pense que le processus est bien expliqué dans le décret.
Parce que selon certains, il faut se lever très tôt pour faire la queue et l'avoir. Il y aurait même eu des listes sur place.
Mais ça, c'est comme la carte d'identité dans nos commissariats de police. Il faut se réveiller à 5h, 6h pour avoir ces cartes-là. C'est la même chose, voyez-vous. Ça veut dire tout simplement que nos populations sont déterminées à avoir ces cartes-là. Les conditions sont connues, les critères sont connus. Qui peut l'avoir, à quel âge sont connus. Maintenant, l'avoir facilement, moi je l'ai dit dans mes propos, il va falloir que le gouvernement, nos plus hautes autorités s'impliquent considérablement pour que le travail puisse se faire, que la célérité surtout, que les gens puissent avoir ces cartes-là.
Mais est-ce qu'il n'y a pas lié également d'élargir les sites-là, parce qu'on parle d'engouement, les gens y vont, d'élargir les sites d'enrôlement aujourd'hui.
C'est pourquoi j'ai parlé de l'implication des mairies. C'est ce que je disais tantôt. Il faut impliquer les mairies, il faut mettre des équipes mobiles, en tout cas sur place. Mais je tiens aussi à préciser que la situation, elle n'est pas seulement communicationnelle, sensibilisée, elle est aussi technique, elle est aussi question d'être en mesure pour y faire face. Parce que quand vous voyez un peu au centre et au nord de notre pays, avec la crise sécuritaire, les déplacements, les déplacés et tout, plusieurs d'entre eux n'ont pas aussi accès à la télé, à la radio. Passer par quel moyen? Il faut un moyen de communication adapté aussi pour ces gens-là, pour qu'ils puissent connaître l'importance de la carte. Mon co-débatteur, je crois, de Banyangara a parlé, surtout il a insisté sur en tout cas l'importance de cette carte biométrique, mais aussi en fonction des élections. Cette carte, elle est multifonctionnelle. Elle ne doit pas seulement avoir une vision adossée aux élections. Elle doit avoir plutôt une vision d'accompagner, une vision à long terme. Il ne s'agit pas de trouver un temps dans lequel on dit on va faire vers les cartes biométriques et à partir du 31 mars, c'est fini. Non, il ne saurait se passer comme ça. Avec les cartes NINA, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, moi, ce que je proposerais pour que les citoyens puissent avoir accès à ces cartes biométriques, madame, que le gouvernement essaie d'impliquer les mairies. Que le gouvernement essaye de mettre des équipes mobiles sur le terrain. Que le gouvernement essaie de voir comment la société civile malienne, les partis politiques, les autres, tout le monde puisse s'impliquer dans quel cadre pour que, en tout cas, ça puisse être une réussite. Tout début est difficile, mais moi je pense que c'est la fin qui compte beaucoup. Ça, c'est le résultat.
La même question pour vous, Monsieur Duco. Quelle réponse apporter aujourd'hui aux tracasseries dénoncées par la population pour cette carte biométrique?
Mon frère Sidibé a parlé de mettre à contribution les mairies. Vous avez parlé du décret là, de novembre 2022. C'est clair et net, on a indiqué les autorités autorisées à faire ce travail-là. Donc c'est la gendarmerie, la police et puis les sous-préfets. Et une fois encore, moi, je reviens sur le fait qu'il est important qu'on continue la sensibilisation. Il est important parce que effectivement, même à cette petite étape de un mois, il y aura une évaluation. Mais de toutes les façons, même si une fois l'évaluation faite, c'est aux autorités de déterminer maintenant est-ce qu'il faut continuer comment. Parce que les cartes d'identité, par exemple, qui est élection ou pas, les citoyens vont continuer, n'est-ce pas, dans les différents espaces, à réclamer leur carte d'identité. C'est ça. Donc, ce n'est pas un truc catastrophique tout de suite, quoi. Mais je sais que Mme Maïga a ce souci-là par rapport... Parce que beaucoup de gens pensent
que... Je n'ai pas ce souci.
Non, non, je vais dire... Mais bien sûr, mais bien sûr. Non, je vais dire que c'est même juste que vous ayez ce souci-là parce que beaucoup de gens pensent que le Mali, c'est Bamako. C'est ça, en réalité. C'est pour cela que c'est important au niveau de Siyo Tamani que vous donniez la parole à tous les concitoyens, à tous les Maliens en dehors de Bamako. Et la voix de ces personnes-là, elle est extrêmement importante parce que ce sont ces personnes qui sont sur le terrain. Nous qui sommes là en tant que citoyens, membres de la société civile et vous-même, monsieur Sidibé, je pense que notre situation est plus confortable que celui qui est à Aguelhok ou bien mon cousin qui est à Banjagara là-bas, ainsi de suite. Et il y a ces questions d'énergie qui vont encore se poser. Je pense qu'il y a un gros boulot qui reste encore à faire. C'est un gros boulot. Aujourd'hui, c'est un peu l'introduction, mais... Ce décret-là, c'est le décret numéro 2020-639.
Le temps de poser une dernière question autour de table, parce qu'on me dit qu'il ne reste plus de temps pour clore cette émission. Vous avez tantôt dit que c'est une phase test qu'il faudrait élargir. Et en cas de report de fin d'enrôlement, qu'en est-il des échéances électorales? Parce qu'il y a ça également qui attend.
Bon, ça, je vais vous dire, par rapport à cette activité-là, c'est quand même des volontés politiques qui s'expriment pour autoriser, pour dire un mois après, c'est fini et que non, on va proroger. C'est très clair, parce qu'on ne veut pas faire apparaître simplement l'aspect électoral. Il l'a dit, il y a beaucoup d'autres éléments, par exemple les permis de conduire, si c'était prévu de mettre là-dedans, et puis ainsi de suite. Quoi. C'est la volonté politique, mais il faut qu'au niveau de l'administration aussi, que les équipes soient mieux formées. Parce que c'est les nouvelles technologies. Hein. Quand vous allez voir nos collègues, peut-être sous-préfets, ils n'ont jamais touché un ordinateur, il n'y a pas de courant, il n'y a que des batteries qui peuvent à tout moment. Il y a beaucoup de travail à faire en réalité. Il y a beaucoup de travail, mais comme je l'ai dit, on démarre comme ça. La communication doit continuer. La communication doit continuer. Et étant donné que c'est technique, les experts en la matière aussi, la parole doit leur être donnée pour encore expliquer ça aux gens, pour qu'ils le comprennent.
Salia Traoré de la COSEM, en cas de report de la date butoir pour la fin de l'enrôlement, est-ce que le calendrier électoral ne sera pas également touché?
Bon, il faut savoir déjà que le chronogramme électoral n'est pas totalement en vigueur, parce que comme vous le savez, on devait convoquer le collège électoral pour le référendum pour le 17 février. Donc, de ce fait, nous aurons un nouveau chronogramme et nous aurons espéré qu'à la lumière de la modification de la lecture de la loi électorale, et même si la date butoir arrive à terme, et que nous puissions également réadapter le chronogramme aux besoins de ces aspects. Extrêmement important.
Juste un mot. En fait, pour les prochaines élections, même si par extraordinaire on réclame, vous pouvez continuer à voter avec votre ancienne carte d'identité ou bien votre carte d'électeur. Parce que ça doit prendre un an. La carte d'identité, là, si on vous le donne aujourd'hui, même si vous ne l'avez pas tout de suite, vous avez un an pour vous investir pour l'avoir. Avant les un an, donc s'il y a élection, vous allez voter avec vos pièces à votre disposition en ce moment. C'est extrêmement important et c'est précisé dans le décret.
Aboubacar Karambe, vous venez d'entendre M. Diko, qui est carte biométrique ou pas, qui est carte d'électeur ou pas, la carte biométrique ne pourra rien changer au calendrier électoral. Est-ce que ça peut jouer sur la fiabilité? Parce que ce sont les données quand même, c'est plus fiable. Aboubacar Karambe, la question est adressée à vous et non à M. Diko.
Ok, d'accord, merci quand même, merci. Moi, je pense que, vous savez, ce n'est pas vraiment tellement idéal de conditionner cette carte biométrique aux échéances électorales. Vraiment, parce que nous avons commencé ce processus très tardivement et nous avons peu de temps, en tout cas, pour le clore et puis ensuite le joindre au processus électoral. Je pense que cette histoire de carte biométrique doit prendre un processus très long.
S'il vous plaît, M. Diko, laissez-le terminer. Allez-y, okay. M. Karambe.
Oui, ça, c'est la carte biométrique. Parce que moi, je pense que ça doit faire un processus très long. Parce que vous imaginez, comme l'autre, là, mon co-débatteur avait dit, que approcher la mairie et puis mettre des équipes mobiles sur place. Je suis d'accord avec lui. Mais vous savez que ces équipes mobiles-là aussi, il faut vraiment faire extrêmement attention. Parce que généralement, toutes ces équipes-là qui sont mises en place souvent ne maîtrisent pas les jaunes. C'est ce qui a fait qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs pour le cas du RAVEC. Donc, je pense que les équipes mobiles, oui, mais faire attention aux gens qui seront
mis
en place.
Merci beaucoup, Monsieur Karambe. Temps de donner la dernière intervention à Maudy Siribé. Est-ce qu'il faut forcément lier la carte biométrique et la carte d'électeur?
Non, moi je ne pense pas que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire enrôler le maximum de personnes sur la carte biométrique, il faudrait y renoncer pour aller sur la base des cartes d'électeurs pour les prochaines élections générales à venir. Moi, je pense que c'est ce qui serait une bonne option pour nos plus hautes autorités. S'il faut aller sur la base des cartes d'identité, des cartes d'électeurs et une partie des cartes biométriques, ça veut dire que ça veut dire qu'ils auront cette marge de manœuvre assez large, en tout cas pour que les élections puissent être tenues à leur compte. Je voulais rapidement aussi rebondir par rapport
rapidement parce que c'est par déjà rapport la au chrono- 30
effectivement par rapport au chronogramme. Vous savez, madame, la nouvelle loi électorale dit la, parle de la mise en place du lège à Bamako et le démembrement à l'intérieur.
Alors, la technique m'indique que c'est la fin de cette émission qui réfléchissait sur les tracasseries dénoncées par la population dans l'enrôlement pour l'obtention de la carte biométrique. Grand merci à nos invités, Salia Traoré de la Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, COSEM, Ismaïla Yorodiko, membre du bureau du Conseil national de la société civile, Aboubakar Kalambe au téléphone, secrétaire général du bureau communal de la jeunesse de Badiangara, Modi Sidibé du mouvement des jeunes patriotes. À la régie son et vidéo, il y avait Seydou Ndao et Mamadou Ouattara. Je suis Mariam Meiga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.